poursuivre avec la création de Père Gunt dans la cour du Palais des Papes à partir de vendredi, donc 16 juillet, et pour neuf représentations avec, dans l'ordre tout au bout, Patrick Pinault, qui assure donc la mise en scène de ce Père Gunt, Eric Elmosnino pour le rôle de Père Gunt, Eugène Durif qui a assuré la dramaturgie du spectacle et Gilles Arbonnat qui joue aussi dans cette production. Alors c'est une œuvre de grande haleine, l'histoire d'un personnage sur à peu près 40 ans avec plein de facettes. J'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous, sauf peut-être à vous Gilles Arbonnat et encore, comment vous raconteriez l'histoire de ce personnage sur 40 ans? Est-ce qu'il se raconte, est-ce qu'il se résume à la manière d'une fable, Patrick Pinault?
C'est-à-dire que ce qui m'a touché dans cette pièce, c'est l'aventure. Ça concerne un petit peu tout le monde. Ça parle de le thème principal de la pièce, c'est être soi-même. Qu'est-ce qu'être soi-même? Alors on pense inévitablement à ce qu'on est avant, ce qu'on est après, ce qu'on est pendant. Ça parle du mensonge, ça parle de notre passage sur Terre, avec nos divers quêtes, nos divers rencontres, le mensonge, Je dirais que c'est une grande épopée. C'est une pièce avec une multitude de références. On pense évidemment à Faust, on pense à Don Quichotte, c'est un personnage qui nous emmène dans le rêve. On peut imaginer, on peut penser à la fin de la pièce que tout ça n'est qu'un grand rêve, que ce personnage n'a absolument pas bougé de l'endroit où il est. Il pose des questions sur nous, une pièce universelle qui aborde un petit peu tous les thèmes, sur l'amour, ces enveloppes, ces diverses enveloppes qu'on endosse, avec aussi à la fin, Ibsen ne donne aucune réponse, c'est-à-dire qu'il pose un tas de questions, une pièce avec une multitude de sens mais sans réponse. C'est ce qui m'a touché dans cette pièce.
Il propose de rêver.
Oui, bien sûr.
C'est l'un des derniers mots de la pièce.
Oui, le dernier mot de la pièce, c'est « Rêve, mon enfant ». Il retrouve sa fiancée et il a le droit au rêve. Ça, pendant 40 ans ou 50 ans de sa vie, il se cherche. À la fois dans une grande solitude, c'est quelqu'un qui ne veut pas se fixer. C'est quelqu'un qui ne veut pas quelque chose d'irréversible, qui lutte contre ça, qui fait un voyage formidable pour arriver à s'effacer lui-même, puisque à la fin de la pièce, il va jusqu'à vendre ses rêves pour être finalement comme un animal en haut d'une montagne où le rêve, c'est d'être enfoui sous la neige et mettre « ici ne gît personne ».
Eric Elmosnino, comment vous raconteriez ce personnage? De la même manière, non? Pas tout à fait.
Je sais pas, non, j'entends ce que Patrick dit. Moi, après, je le raconte avec les mots d'Ibsen, donc j'essaye de me fondre à l'intérieur de tout ça, j'essaye de m'imprégner de cette parole, On peut dire qu'il y a trois périodes, en fait. Il y a la jeunesse, il y a la vigueur, il y a les 20 ans. Donc ça, c'est une chose que, ma foi, j'arrive encore à me souvenir ce que c'est d'avoir 20 ans, c'est pas si loin. Donc j'essaye de retrouver l'énergie qu'on a à cet âge-là, ce qu'on a envie de faire, comment le rapport à l'amour, au sexe, à l'alcool, quand on a 20 ans. Après, on passe à une petite cinquantaine, on va dire. Ça, c'est pas si loin non plus. C'est devant, mais c'est pas si loin. Donc je peux sentir ce que ça va faire. Et la troisième partie, c'est la plus compliquée, évidemment, pour moi. C'est celle du vieillard de 75 ans, du vieillard solide qui revient chez lui en Norvège à 75 ans. Alors évidemment, là, on commence à toucher des endroits, déjà la Norvège, ensuite 75 ans. Tout ça s'éloigne un petit peu de ce que je ressens. Donc la seule parade que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de faire lire l'acte 5 à Jean-Paul Roussillon, puisque j'ai joué avec lui, j'ai eu la chance de jouer avec lui dans Ivanov. Et une fois qu'il a fini de lire l'acte 5, je me suis dit, bon, d'accord, maintenant, je vais essayer de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire rien, juste avoir 75 ans.
On continue le tour de table, Jeanne Durif.
Oui, en fait, donc pour C'est vrai que moi d'habitude, je ne suis pas spécialement dramaturge au sens.
Vous êtes un auteur.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que la pièce, je la trouve tellement belle que quand Patrick m'a proposé effectivement de travailler comme ça avec lui dessus, j'étais vraiment heureux parce que c'est en même temps, c'est vrai que quand on lit cette pièce, après on a du mal à écrire parce qu'il y a un côté tellement fort et énigmatique en même temps. Et c'est-à-dire que c'est une énigme, plus qu'on essaye d'approfondir, et plus on essaye de l'approfondir, plus on a l'impression qu'on reste devant, comme ça, que c'est quelque chose qui nous est à la fois complètement proche et qui reste aussi très lointain, comme ça, parce que ça nous parle de façon poétique et ça reste très, très mystérieux. Et c'est des tas de questions qui sont posées, comme si c'était un personnage qui était. On peut se demander au début si c'est simplement un menteur, quoi, c'est comme un menteur de village qui prend peu à peu, qui va vers aussi vers quelque chose qui serait plus de l'ordre de la fabulation, de quelque chose de plus du conteur, du théâtre, en même temps, sans arrêt des questions qui sont posées sur le théâtre tout au long de la pièce, et qui pose de façon, comme s'il essayait sans cesse de poser cette question, qu'est-ce qu'être soi-même, qu'il la posait de façon différente, qu'il ne trouvait pas de réponse, et qu'il était toujours, en même temps, qu'il ne pouvait pas trouver de réponse, parce qu'il était toujours dans un pur présent, comme si c'était un voyage d'initiation où il n'y aurait pas de. Où il n'y aurait pas de mémoire. C'est-à-dire que ça serait toujours le présent, comme s'il butait sur ce présent et que c'était qu'il n'y avait rien d'autre que ce qui était vécu dans l'instant. Donc que rien ne pouvait se constituer quoi, comme trajet. Et que finalement, jamais il ne prend en considération l'autre, vraiment. C'est peut-être là-dessus qu'il ne peut pas répondre à cette question. Et que quand, à la fin, l'autre est là et quelqu'un que lui a oublié, qui n'a rien oublié, qui est là, c'est comme s'il pouvait advenir à 75, 80 ans, je ne sais plus quel âge il a, il pouvait devenir, qu'il y avait cette dimension, qu'il pouvait commencer à répondre à une question qu'il avait, qui s'était posée, mais sans se donner la possibilité d'y répondre, mais en même temps qu'il avait exploré. Puis je trouve que ce qu'il y a de très beau dans cette forme de l'écriture même, c'est que c'est cette énigme dont je parlais, c'est-à-dire que c'est vraiment cousu de plein de fictions, de plein de contes, de comme si Ibsen avait pris des contes qui existaient déjà, qu'il avait prélevé des petits bouts et qu'il s'était un peu amusé avec ça, qu'il avait en même temps des réminiscences bibliques détournées, des réminiscences de Faust aussi, parce qu'il y avait une citation détournée de Faust, enfin, vraiment, il y a plein de choses comme ça. Et c'est très passionnant. En plus, on a eu la chance de travailler quelques jours avec François Regnault, qui a traduit la pièce magnifiquement, je trouve, qu'il avait traduit pour Patrick Chéreau. Et c'est vrai que c'était. Il nous a ouvert aussi plein de choses comme ça. Il avait fait d'ailleurs un très très beau. Il y a un très beau livre qui est épuisé maintenant, qui était autour de ces. Qui a un dossier qu'il avait fait en 1980, qui est magnifique. Il y a plein de choses qui sont. Et c'est vrai que cette traduction, en plus, est vraiment je trouve vraiment formidable. Quoi. C'est un plaisir.
Gilles Arbenas, comment le roi des trolls que vous jouez dans le Birgunt voit ce personnage?
Le roi des trolls, c'est une. Il fait partie des contes. C'est-à-dire que c'est la facette conte de Peer Gynt. Je voudrais simplement, pas compléter, parce que ces gens-là sont très intelligents, mais enfin dire deux, trois choses sur la pièce. C'est vrai que c'est formidable. C'est la façon dont elle aborde tous les styles. C'est une grande pièce baroque extraordinaire. Elle commence comme une espèce de conte naturaliste, et c'est vrai qu'on peut penser à Shakespeare. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il est comme Richard III à la fin de la première partie, couronné empereur. Alors c'est un empereur dérisoire. C'est un petit empereur, et en même temps, dans l'âme, il est peut-être très grand. C'est une très grande leçon qui est donnée comme ça, à la manière dont finalement on se comporte dans les situations, et ce qu'on devient ou ce qu'on ne devient pas. Et c'est vrai que cette pièce aborde tous les genres. Elle est aussi, et moi j'insisterai là-dessus, c'est le personnage est beaucoup dans le commentaire, mais c'est un commentaire. Formidable parce qu'il est à la limite de la caricature quelquefois. Quand on lit bien la pièce, quand on la suit comme ça, ligne par ligne, on s'aperçoit qu'effectivement, il vit les situations et qu'en même temps il les commente, qu'en même temps il donne son avis, qu'en même temps on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose de très actuel parce que c'est dit avec des mots, on a l'impression que c'est écrit aujourd'hui. Elle est d'une richesse absolue. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans le travail de Patrick, hein, c'est cette façon de coller. Il a un instinct ludique, un instinct jouissif. C'est-à-dire qu'on est complètement. On colle à la peau de la pièce. Alors, moi, je fais partie d'une génération qui a vu celui de Chéreau, je peux en parler, il y a prescription. Et c'était un spectacle magnifique. Mais comme ça, pour aller très vite, on pourrait dire que c'est. On pouvait dire, et on pourrait dire encore aujourd'hui, je ne sais pas, que c'était comme ça une vision d'image opératique. Il y avait quelque part une façon, comment
pas d'être univoque, mais enfin d'avoir comme ça une grande image qui englobait la totalité, une espèce de généralité comme ça magnifique qui nous replongeait dans une pièce qui devenait presque post-romantique. Je pense que là, enfin je ne sais pas, mais c'est mon avis, et c'est à vous après à le constater, je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans. On colle au style de la pièce. Je veux dire par là que c'est comme un grand livre d'images. On passe, et je vais revenir au troll parce qu'il s'inquiète là, mais je vais m'arrêter. Quand j'arrive sur les trolls, on est dans le conte. Eh bien, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, c'est un peu comme dans Shakespeare, quand il dit il y a une armée qui rentre. On passe d'une scène d'alcôve et on se retrouve dans un conte complètement imaginaire avec des personnages sortis d'on ne sait où. Maintenant, sur les trolls, ce que je pourrais dire en vitesse, c'est que... On a eu énormément de difficultés à savoir ce qu'est un troll. Voilà. C'est un peu, et encore, je pense qu'on a une idée beaucoup plus occidentale du Sud à définir des elfes chez Shakespeare, par exemple. Mais c'est vrai que le troll, quand même, c'est vraiment très là-haut. Et on ne sait pas très bien, c'est à mi-chemin entre le viking et l'arbre. Et puis je ne sais trop quoi. Nous, on en a fait quelque chose de... indescriptible, je ne sais pas. Il fallait trouver une identité. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me fondre dans la nature du personnage et je crois que je ne sais pas encore très bien ce que c'est. Donc voilà, sur les trolls, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. J'espère que c'est quelque chose de ludique et d'agréable à regarder.
Patrick Pinault, oui. Non, je voulais juste dire un truc sur le roi des trolls. Une petite chose, parce qu'on parlait du roi des trolls et que quand la pièce a été créée en France par Lumière Pro, et. Lugnepo avait comme partenaire, homme à tout faire, acteur, traducteur, Alfred Jarry. Et c'est Alfred Jarry qui a créé ce rôle, qui avait retraduit la pièce d'ailleurs en partie, et cette traduction a été perdue malheureusement. Et c'est assez passionnant de penser que dans la même saison, Lugnepo a créé Peregrine et ensuite Hugo Roy. Il y a comme des résonances, des échos entre les deux pièces, et c'est assez émouvant de penser que le roi des trolls, c'était Jarry qui l'a joué pour la première fois.
Patrick Pinault, Gilles Arena parlait d'un grand livre comme ça d'images dans cette mise en scène de Pierre Gunt. Lui-même, Ibsen disait qu'on pouvait aménager sa pièce. Il proposait éventuellement de supprimer l'acte 5, je crois, etc., dans les premières versions. Est-ce que vous l'avez aménagé et comment, ou est-ce que vous l'avez respecté au pied de la lettre
J'ai supprimé, je crois qu'il y a 38 scènes, j'ai supprimé une seule scène, c'est-à-dire que un monologue de Peer Gynt. Sinon, on a réduit la pièce, parce qu'elle fait 3h35 à peu près. Et j'ai essayé de garder toute la ligne, c'est-à-dire qu'on a... J'ai compressé, on va dire, j'ai compressé les scènes, mais j'ai essayé de garder absolument tout le parcours. J'ai gardé toutes les scènes, mais en faisant un travail avec Eugène Durif, Anne Soisson et Annie Perret, sur le texte, sur l'adaptation, avec l'accord de François Regnault.
Mais alors pourquoi justement faire appel à Eugène Durif, qui est lui-même un auteur, pour la dramaturgie
Mais parce que c'est parce que je travaille avec Eugène, j'ai une sorte de fidélité comme ça aux acteurs, à la technique, à un groupe de travail. Je suis avant tout acteur plus que metteur en scène, la mise en scène est venue par hasard. Là encore, c'est un hasard, puisque Vincent Baudrier, j'en profite quand même, était venu voir un de nos travails à l'Odéon et m'a proposé de venir monter quelque chose avec un groupe, avec ce groupe-là. C'est important pour lui, je le rappelle, sinon je ne serais pas venu. Moi, je n'ai pas demandé à monter une pièce, je n'ai pas fait un projet, je n'ai pas fait un dossier. Je ne suis pas dit, tiens, je vais monter Peer Gynt à Avignon et dans la cour d'honneur. Ben, j'ai simplement demandé de venir dans un lieu en plein air. Bon, c'est un beau lieu et normalement, si j'étais lucide et responsable, j'aurais dû refuser. C'est pas logique, hein, je vous préviens, c'est absolument pas logique que je sois ici à cet endroit-là. Mais j'aime bien cette position-là. Je me dis que la vie passe très très vite, que des chocs comme ça, il ne faut pas les louper. Même si l'aventure... j'espère qu'elle ne sera pas pénible. C'est avant tout du théâtre. C'est avant tout aussi ma forme de théâtre à moi, personnelle. J'insiste là-dessus, parce que j'aime énormément les acteurs. Je suis fasciné par... Pour moi, c'est un rapport à la peinture et à la sculpture. C'est quelque chose qui me met dans un état de choc, dans une émotion considérable. Je trouve ça absolument irréel,
d'aller au théâtre. Quand je vais au théâtre moi-même, quand le rideau se lève, j'ai à chaque fois une émotion, parce qu'on a du faux en vrai. Un être vivant devant vous, qui va vous faire croire, qui va vous emmener pendant une heure et demie, deux heures, vous faire croire à l'amour, à la mort. Et on va y croire normalement. Et ça, pour moi, c'est absolument pas, c'est pas logique. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et ça, ça me crée une émotion. Ça bouleverse ma vie. Ça me procure des chocs. Ça fait avancer le théâtre aussi à cette façon d'arrêter le temps. C'est-à-dire qu'on va vivre un moment ensemble pendant trois heures et demie, où pour moi, le temps s'arrête. Et c'est très rare d'arrêter le temps. On court tous après ça. On aimerait bien de temps en temps arrêter l'aiguille d'une horloge, c'est un rapport à la mort, évidemment. Et pendant trois heures et demie, on va vivre tous ensemble quelque chose d'agréable ou de désagréable. Et le désagréable, c'est pas important, puisque le théâtre est aussi fait pour créer des chocs. Après, on se retourne et on se dit, tiens, je l'ai fait, je l'ai vécu. Et je reviens sur le collectif. Donc, le choix de la pièce est venu... moi, j'avais pas décidé du tout de monter Pergunt. En tout cas, j'avais décidé de venir ici, avec ce groupe-là, et notamment avec mes partenaires de théâtre depuis 15 ans, parce que je travaille dans le théâtre public. Et pour moi, ça a une importance aussi, le mot public, parce que pour moi, ça a à voir avec la démocratie, avec la liberté de penser. Elle est très importante. Ça dépasse même Ibsen. Et de venir avec ce groupe-là, avec Eric Elmoslino, avec qui je partage le théâtre depuis 20 ans, de vivre ce moment-là pendant 9 jours, c'est peut-être un cadeau empoisonné, mais peu importe. C'est un lieu de théâtre. J'oublie aussi le côté... j'en profite, hein, je fais un peu des chemins comme ça, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que pour moi, que ce soit au Pénitent-Blanc, au stade municipal de Villeneuve-les-Avignon, à la Cour d'honneur, je fais du théâtre de la même façon. C'est juste le lieu qui change sur les entrées et les sorties. Il y a des lieux plus durs que d'autres. Celui-là est particulièrement difficile et très, très envoûtant. La première fois où je suis rentré dedans, j'ai eu un frisson. J'ai pensé à des gens qui ont construit le théâtre, évidemment à Jean Villard. Et puis j'ai pensé à mes professeurs, j'ai pensé à tous ces metteurs en scène qui sont venus là, tous ces acteurs qui sont venus faire rêver, rassembler. Parce que c'est un lieu qui permet, je crois, ce qui est assez rare dans le théâtre public, parce que le théâtre est fait pour tout le monde. Des fois, j'ai remarqué, il y a des spectateurs qui ont peur d'aller au théâtre, qui ont peur d'aller voir du théâtre contemporain. Il ne faut pas avoir cette peur, au contraire, il faut être curieux. Et ce théâtre-là, ce lieu-là, pour moi, a le don de rassembler 2000 personnes, donc une multitude de gens. Et je me dis que si ça peut permettre cette multitude, ce rassemblement, si ça peut donner envie aux gens de continuer à aller au théâtre et d'être curieux, ça, c'est important. C'est cette raison, enfin, je fais du théâtre pour cette raison-là. Et... Enfin, voilà. Donc, après, je peux parler.
Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, mais ouais. Vous avez devancé certaines de mes questions. Mais puisqu'on est sur la question du lieu et de la cour, j'aimerais demander à Eric Elmoslino comment il perçoit ce lieu, cette cour. Vous y avez déjà fait quelques pas.
Oui, j'ai fait quelques pas, deux fois. Une fois avec mon camarade Vincent pour les Fourberies, il y a quelques années maintenant. Je faisais un jeune premier à l'époque. Et puis il y a un peu moins longtemps pour le Roi Jean. D'ailleurs, c'est bien de revenir pour finir quelque chose, puisque la dernière fois que j'y ai joué, ça s'est arrêté au milieu de la représentation. Donc c'est bien qu'il y avait quelque chose à finir, il fallait revenir. Le temps ne nous avait pas permis de finir le spectacle. Sinon, comment je le perçois, non.
Mais ayant cette expérience, vous avez plutôt inquiété Patrick Pinault ou vous l'avez rassuré?
Je l'ai ni inquiété ni rassuré. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on y aille parce qu'on n'avait pas grand-chose à perdre. Sinon, que de se faire tirer dessus comme ça peut arriver dans n'importe quel endroit. Donc, moi, j'ai décidé d'attaquer cet Himalaya avec plaisir, envie, avidité, jouissance. J'ai envie de le faire partager à cet endroit-là. J'ai envie qu'on puisse prendre du plaisir. C'est-à-dire moi, évidemment, j'ai envie de donner du plaisir et puis j'en prendrai beaucoup si ça se partage, évidemment. Mais quand on s'attaque à l'Himalaya, je me suis dit à un moment, tu ne vas pas te demander tous les 10 mètres si tu as bien fait de commencer à grimper, quoi. à un moment, bon, bah, voilà, tu grimpes, et puis si t'arrives pas jusqu'en haut, bah, tu auras fait tout ce que tu as pu pour... Voilà, maintenant le lieu, cette cour du bonheur, comme je l'appelle, moi, c'est un lieu, évidemment, je dirais presque... C'est un peu compliqué parce que je dirais que c'est un lieu où il faut être presque fort techniquement. Alors là, c'est pas très poétique comme réponse, mais d'une certaine manière, je vois que ça. Et ça, pour être fort techniquement, le solfège, soit on le sait, soit on le sait pas. Soit on l'a appris, soit on l'a pas appris. Et ma foi, ça s'apprivoise. On a eu effectivement très peu de temps pour l'apprivoiser. C'est un lieu qui n'est pas le même s'il y a beaucoup de vent ou s'il n'y a pas de vent, ça on le sait, même pour les gens qui regardent, hein, on est tous un peu dans le même bateau là-dessus. Mais c'est un lieu où, oui, il faut arriver à le sentir et à se cadrer techniquement, j'ai envie de dire, pour faire passer les émotions. Il faut être assez fort techniquement. Il ne s'agit pas d'arriver la bouche en cœur en disant « c'est pas grave, je vais mettre toutes mes tripes là-dedans parce que ça peut partir vraiment n'importe où. » Bon, ceci dit, je ne sais pas du tout si je vais y arriver, hein, une fois que j'ai dit ça, voilà.
Scéniquement, comment vous avez résolu la question du plateau, de l'immensité du plateau, de la façade? Est-ce que vous voulez dire des choses là-dessus ou vous préférez attendre le jour de la première pour que les gens découvrent?
Oh non, il n'y a pas de secret. Non, c'est un plateau. Je suis travaillé dans un espace plutôt vide. C'est-à-dire qu'il y a un sol, une peinture, une cabane, un mât et c'est tout. J'ai essayé de travailler avec... Je crois que mon travail, c'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mon travail, notre travail, je pars de l'acteur. Vraiment, à chaque fois, je pars du texte et de l'acteur. C'est-à-dire que j'aime bien mettre l'acteur dans sa solitude, comme ça, dans le dénuement, avec la fable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Franchement, c'est plutôt très dénudé. La façade n'est pas habillée, il n'y a rien du tout. Je n'utilise pas les fenêtres. Parce qu'on m'a demandé si j'utilisais les fenêtres, ils n'utilisent pas du tout.
Donc vous êtes minimaliste.
Oui.
Oui, si je peux juste rajouter, minimaliste peut-être au niveau de la scénographie. Effectivement, moi je trouve, avec ce peu-là, je trouve qu'on arrive à faire plutôt pas mal. Mais il ne faudrait pas imaginer qu'on est juste deux, avec Gilles Arbonnat à jouer Bergune, sinon ça va faire peur un peu. On est 18, c'est ça? Oui. On est 18 acteurs et actrices. Donc ça brasse pas mal d'énergie quand même.
Quel metteur en scène vous êtes d'ailleurs, Patrick Dino, sachant que vous êtes vous-même comédien?
Je me considère... Enfin, metteur en scène, je travaille en collectif, c'est-à-dire que je crois que je délègue énormément. Éric parlait des acteurs, mais il y a aussi toute une équipe technique derrière. Il y a Eugène, il y a Brigitte Tribouillois, Sylvie Orcier. Je crois pas être un... Je suis plus un... Je crois un regard et d'essayer de temps en temps d'être une paire d'oreilles, comme je dis. Souvent, je dis quand j'arrive à regarder avec mes oreilles, c'est bien fermer les yeux et de regarder, donc d'écouter. J'accompagne plus que... C'est pour ça que je me définis pas comme un metteur en scène. Je suis plus un... J'aime énormément la répétition. J'aime m'enfermer dans un lieu et travailler avec les acteurs. Et je pourrais, là, aujourd'hui, j'aimerais... C'est normal parce que ça approche. Donc quand ça approche, on se dit qu'on voit toutes les erreurs du spectacle. Donc on est plutôt mal à l'aise. Et là, non, ce que j'aimerais, par exemple, là, j'aimerais m'enfermer à nouveau, recommencer. C'est-à-dire que là, je me dis, tiens, je commence peut-être à saisir deux, trois choses de la pièce. Donc c'est vrai que j'aimerais arrêter 2 mois et retravailler 1 mois. J'aimerais que ça ne s'arrête pas, la répétition. Mais même comme acteur, j'aime beaucoup la répétition. Le jeu, j'aime ça, mais la répétition, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il faudrait presque jouer. L'idéal, ce serait de jouer comme on répète. J'aimerais arriver à ça un jour avec des acteurs, c'est d'arriver le jour de la première comme une répétition.
Mais c'est ce que tu demandes.
C'est ce que je demande, mais en général. Oui.
J'appuie un petit peu, puis on va revenir à la dramaturgie, Eugène Duruche. Mais donc, ce projet-là n'aurait pas été possible, pensable, jouable, sans la troupe et notamment une partie de la troupe de l'Odéon.
Oh ben c'est tout un ensemble, oui. Ça n'aurait pas été possible sans Baudrier, sans l'équipe de Georges Lavaudan, sans les gens d'Évreux, sans les villes qui ont participé à ce projet, puisque pour qu'un projet se monte, il faut un petit peu d'argent. Et donc il y a des gens qui ont cru en ce projet, et puis après sont venus s'ajouter les acteurs, oui, bien sûr. Enfin, c'est un ensemble, c'est pas que la troupe de l'Odéon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la troupe de l'Odéon, d'ailleurs, il y a 5 personnes de l'Odéon, et à côté, tout un groupe d'acteurs avec qui je travaille, de diverses générations, d'ailleurs que j'ai rencontré soit dans les 2-3 mises en scène que j'ai pu faire, ou moi en tant qu'acteur.
Alors, il va y avoir peut-être des questions, mais j'aimerais quand même pas laisser la question en suspens sur la dramaturgie, sur la façon dont vous avez travaillé ensemble sur le texte d'Ibsen, donc Eugène Durif. Pourquoi et comment vous avez travaillé sur ce texte d'Ibsen en tant que dramaturge, qui était presque une première pour vous?
C'est un terme qui est tout de suite très impressionnant. Donc c'est beaucoup plus simple. Enfin, ce que j'ai pu faire, j'ai essayé de... Bon, avec Patrick, c'est vrai qu'avec Anne Soisson, avec Patrick et Nibéla, on a beaucoup essayé de voir comment déjà on pouvait couper le texte, voir, réfléchir sur ce texte. Et puis, bon, c'est vrai que c'est plus fait de discussion pour moi, de venir travailler, de regarder les acteurs travailler, tout ça. Puis c'est vrai qu'on a en même temps travaillé, essayé de comprendre, je parlais tout à l'heure de l'énigme, mais... C'est à la fois préserver cette énigme, mais puis travailler aussi en essayant d'avoir le plus de lueur possible sur ce texte. C'est vrai que j'ai essayé de lire avec Patrick aussi et toute l'équipe. On a beaucoup lu de choses, je crois, différentes. On a des choses qui ont été écrites sur Ibsen, sur Birkin, quoi. Ça, c'est le travail, je pense, habituel. Je ne sais pas, moi, j'ai du mal à me situer vraiment comme dramaturge, parce que c'est vrai que je me sens plus auteur. Là, par exemple, je n'ai pas vraiment fait de document sans dramaturgique. Je me suis amusé à faire un petit glossaire guintien, où je reprenais les termes principaux, en essayant de m'amuser un petit peu avec, pour essayer à la fois d'essayer de comprendre, et puis de montrer là où je ne comprenais pas les choses. Enfin, vous voyez, c'est pas vraiment... je ne sens pas vraiment cette maîtrise que peut avoir, je crois, un dramaturge au sens classique. Quoi. C'est plus d'accompagner un travail avec un groupe de gens que j'aime beaucoup, et dans la perspective aussi d'un autre projet qu'on a avec Patrick, que je suis en train d'écrire aussi parallèlement. Donc, c'est ça qui était cette dynamique-là qui me plaisait beaucoup. Et avec un groupe de gens avec qui j'avais travaillé l'année dernière aussi sur Les Barbares, je jouais un petit rôle aussi dedans et j'avais déjà fait un peu un travail de dramaturgie. C'est pas, je crois, c'est l'occasion qui a fait là pour moi.
Merci. Y a-t-il des questions sur ce Birgune dans la cour d'honneur? Non, aucune question?
Je voudrais quand même. Bon, ben, je vais passer la parole à Gilles pour parler d'un sujet important qui est l'état actuellement de notre profession par rapport au gouvernement, qui apparemment ne... Ah, je crois que les gens partent. Donc je vais passer vite la parole à Gilles. On s'est vu hier avant que tout le monde disparaisse. Ça nous paraît important.
Non, écoutez, il y a une chose importante à signaler aujourd'hui, c'est le fait que la manière dont les pouvoirs publics peut-être communiquent sur ce problème, que vous connaissez tous, je ne vais pas y revenir dans le détail à 100%, mais une chose est importante, c'est de faire en sorte que ne soit pas entendu le fait qu'il y aurait d'un côté, par exemple, une coordination avec une bande d'excités, et de l'autre côté, les comédiennes complètement désengagés de ce problème-là et qui jouent comme étant effectivement des gens à l'abri, etc. Il est bien évident que tout ça est faux. Est faux. On ne tient finalement qu'à un fil, c'est-à-dire le fait que le festival soit là cette année, et c'est formidable. On le tient finalement grâce à quoi? À la compréhension, d'une part, d'une direction du festival, qu'il faut le rappeler, très compréhensible, effectivement. On le tient aussi, d'autre part, à une coordination qui a opté pour d'autres moyens d'action qu'on essaye de valoriser aujourd'hui. Donc, formidable de parler des spectacles, c'est formidable. Le festival est là et c'est formidable. Et on a tous de la chance, nous, d'être là, les acteurs de ce festival, vous d'être là, le public de ce festival. On a tous cette chance ensemble, mais elle ne tient qu'à un fil. Vous savez très bien que ça continue. Que les mesures qui ont été apportées sont des mesures de rattrapage, qui permettent simplement, je veux dire, de financer, de les recalculer, etc. Il y a eu simplement une avancée certaine, c'est l'avancée de la prise en compte des congés maternité pour les femmes enceintes, c'est tout. Maintenant, nous sommes toujours là sous l'épée de Damoclès de ce protocole qui reste quand même très inique, injuste, il faut quand même le dire et le redire. Je sais très bien que ça fait plus d'un an, je veux dire, qu'on raconte tout ça, mais il faut continuer à prendre ça très au sérieux. Les choses ne sont pas terminées. Vous savez qu'il y a une audite qui a été mise en place par le gouvernement pour juger de la fiabilité de ce protocole. On en attend un résultat au cours du mois d'octobre, du temps octobre. C'est un dénommé Guillaume, d'ailleurs, qui sera là avec le ministre, je crois, le 16. On lui reposera un certain nombre de questions. Mais on ne sait pas très bien comment les choses se passeront une fois qu'effectivement les conséquences auront été tirées de cette audite. Donc moi, je tiens à rappeler que ce protocole est toujours là. Au 1er janvier 2005, il y a, normalement, on l'a dans les pattes. Et très précisément, j'aimerais dire et rajouter que les points essentiels sur lesquels nous continuons à nous battre, qui sont effectivement l'annexe unique, c'est-à-dire nous tenons à ce que les acteurs et les techniciens ne soient pas séparés au sein même de ce protocole. Nous faisons le même métier, nous sommes sur le plateau au même moment. Les 507 heures en 12 mois avec une date anniversaire ouvrant droit à 12 mois d'indemnité. Il n'y a pas de raison de faire exception. Une indemnité journalière calculée sur la base du salaire annuel et du nombre d'heures travaillées, ça me semble logique. Un plafonnement des cumuls salaires et indemnités, parce que les ACDIC, effectivement, c'est un appoint, c'est un revenu de remplacement et non un revenu de confort, nous sommes bien d'accord. Et le rétablissement des droits sur les congés maladie, bien évidemment. Quand on est malade, il faut bien qu'on existe quelque part, qu'on soit pris en charge. Seuls les congés de maternité, comme je vous l'ai dit, ont été réglés, mais pas encore effectivement les droits sur les congés maladie. Enfin, la prise en compte des heures de formation. Vous savez très bien qu'on ne veut pas prendre en compte la paraprofession de l'acteur, qui est de donner des cours à droite, à gauche, etc. Et en sont victimes principalement, pour l'instant, les techniciens. Voilà. On demande donc cette prise en compte des heures de formation dont on a énormément besoin, je veux dire, dans nos métiers de technicien et d'artiste. Voilà, je le répète, tout ça ne tient qu'à un fil, c'est formidable. Tout ce qui va se passer, vive le festival, mais ça demeure. Et il faut quand même le garder dans un coin de la tête, c'est très important pour nous en tous les cas. Et pour vous, par conséquence. Voilà, merci.
Donc merci à vous tous. Je rappelle les dates de Pierre-Gune. Donc la première le 16 juillet. Et je sais pas ce qu'on dit.
Rien.
Merci, à demain. Je précise que pour ceux qui éventuellement vers 1h du matin ne sauraient pas quoi faire, il y a dans le programme du festival la 25e heure. C'est tous les soirs et notamment dans la salle Benoît XII. Et ce soir, vous pourrez entendre le texte de Philippe Ken et de Vivarium Studio, des expériences. Merci et à demain.